Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 25 concernant la série Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Comme cette étude est beaucoup trop longue, je pense que je dois la faire en trois parties. Aujourd'hui, nous aurons la première partie. Le titre, c'est « Comment Dieu prend en charge les péchés des croyants, la purification et la confession ?» Pour l'homme qui croit au Seigneur Jésus, tous ses péchés passés sont pardonnés grâce à l'œuvre de rédemption du Seigneur. Mais que doit-il faire lorsque il lui arrive malgré tout de commettre un péché après son salut? Tout horrible qu'il soit, bien entendu, le péché fait partie de la vie, car nous sommes dans un monde envahi, entouré de toutes les milliers de possibilités de commettre un péché du matin au soir, si ce n'est pas plusieurs. Même s'il est évidemment honteux qu'un chrétien pêche, et j'en fais partie parfois, et croyez-moi, cela m'attriste terriblement. Mais je suis obligé de constater que c'est une réalité indéniable. Nous savons que nous ne devrions pas commettre de fautes. Mais il nous faut reconnaître que cela nous arrive. Qu'allons-nous faire de ces péchés? Si nous voulons régler le problème de nos péchés et en être purifiés, que devons-nous faire? Comment nos péchés peuvent-ils être effacés et pardonnés? Nous allons commencer par le commencement. Nous savons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été cloué sur la croix, il a répandu son sang pour nous laver de tous nos péchés. Cette purification accomplie, il s'est assis à la droite de Dieu. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Si une fois sauvés et purifiés, nous nous souillons à nouveau, eh bien le sang du Seigneur Jésus-Christ nous purifiera-t-il de ces nouveaux péchés? Essayons de comprendre cela. L'homme pense que s'il lui arrive encore de pécher, le sang de Jésus-Christ devra à nouveau agir. Mais ce n'est pas tout à fait ce que dit la Sainte Bible. Le sang nous purifie une seule fois de nos péchés, jamais deux, et évidemment jamais davantage. Il n'est jamais question d'une repurification dans la sainte parole de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous montre très clairement qu'il n'existe qu'une seule purification du péché. Nous lisons dans Hébreux, au chapitre 10, versets 1 à 14, « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est donc pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ, il nous dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » C'est ce qu'il dit à son Père. « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors, Jésus-Christ a dit, « Voici, je viens. » Et dans le rouleau du livre, il est écrit « À mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. » Et ensuite il a dit « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et pour offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent, hélas, jamais ôter les péchés. Mais lui, Jésus-Christ, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité tous ceux qui sont sanctifiés. Gloire à Dieu. Nous voyons donc ici que le Seigneur Jésus-Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour nos péchés. Il a accompli la rédemption éternelle une fois pour toutes. Et par son sacrifice unique, nous sommes rendus parfaits éternellement. Le verset 2 de Hébreux, chapitre 10, sous-entend que ceux qui ont été purifiés n'ont plus aucune conscience de leur péché. Par conséquent, le Seigneur Jésus-Christ s'est offert une seule foi. Ce n'est pas comme les taureaux, les boucs, etc. Il ne saurait y avoir de deuxième offrande. Si quelqu'un rejette cette offrande pour le péché, eh bien, il n'en aura pas d'autre. C'est pourquoi le verset 26 déclare que si nous péchons volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Les péchés d'un homme sont pardonnés au moyen de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Si un chrétien pêche après avoir été sauvé, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas mourir une deuxième fois pour ses péchés. donc son œuvre unique, a absolument tout accompli. Lisons à présent quelques versets du chapitre 9, les versets 25, 26 et 28. Ces versets nous déclarent « Il n'y est pas entré, il n'y est pas entré, afin de s'offrir plusieurs fois. » Il n'y a donc pas plusieurs fois, jamais. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois la croix avant la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. De même aussi, le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un très grand nombre, apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché, et cela pour tous ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Sa seconde venue sera sans rapport avec leur péché. Elle sera plutôt pour leur salut. Les versets 12 à 14 nous disent « Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est donc ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une genisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifiant de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans aucune tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience de toutes les œuvres mortes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Le verset 9 dit du premier tabernacle qu'il est une figure du temps présent. En ce qui concerne ce tabernacle, les dons et les sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Alors la lecture des chapitres 9 et 10 du livre des Hébreux nous montre que le cas des hommes de l'Ancien Testament était totalement différent de celui des hommes du Nouveau Testament. Si je commettais un péché sous l'ancienne alliance, je n'avais qu'un seul moyen pour en être purifié. Si j'avais assez d'argent, eh bien je pouvais acheter un taureau. C'était le plus cher qu'il y avait. Et si j'étais évidemment nettement moins riche, je pouvais acheter un bouc. Mais si j'étais encore beaucoup moins riche, donc plutôt très pauvre, je devais me contenter d'une tourterelle. Je demandais ensuite à un sacrificateur d'offrir l'animal en sacrifice pour l'expiation de mon péché. J'étais heureux dans mon cœur parce que je savais que l'offrande avait fait office de substitution pour mon châtiment. Parce que le sang du taureau ou de la chèvre représentait mon sang, Dieu allait donc me pardonner. Je pouvais rentrer chez moi totalement soulagé et joyeux. J'étais l'homme le plus heureux au monde parce que mes péchés avaient été pardonnés. Ils avaient été effacés. Les ténèbres de ma conscience avaient disparu et je ne souffrais plus. Mais voilà, au bout de 2 jours, je commençais peut-être à me dire, voyons cela de plus près. Et si, par exemple, ce sacrifice n'avait pas fonctionné? On ne sait jamais. Et si le sacrificateur n'avait pas accompli les bons gestes ce jour-là? Toutes ces pensées me tourmentaient et je recommençais à souffrir. N'y tenant plus, je finissais par acheter un autre taureau, il fallait quand même être aisé, ou un autre bouc que j'amenais au sacrificateur en lui disant que le précédent sacrifice n'avait pas été accompli correctement et en le priant de bien vouloir recommencer, mais cette fois avec tout le sérieux. Et le sacrificateur tuait ce deuxième animal et l'offrait à Dieu, il l'offrait à l'Éternel en m'assurant qu'il accomplissait l'expiation de mes péchés. Or, dans le Nouveau Testament, c'est pas la même chose que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsque la conscience d'un homme était troublée, il avait toujours la possibilité d'apporter un autre animal au sacrificateur pour qu'il l'offre en sacrifice. C'est ce que nous montre Hébreux chapitre 9. Et ce texte nous dit que l'œuvre accomplie par le sang des taureaux et des boucs n'était donc pas parfaite. Si elle l'avait été, poursuit ce fameux chapitre, le chapitre 10 du livre des Hébreux, eh bien la conscience des péchés aurait disparu. Dieu reconnaissait que l'œuvre des taureaux et des boucs était incomplète par rapport à la conscience, parce que chaque fois qu'un homme perdait la paix de sa conscience, il avait le sentiment que ses péchés n'avaient pas été totalement effacés et il éprouvait le besoin d'offrir un autre sacrifice. Alors l'apôtre nous montre cependant que le chrétien n'est pas dans le même cas, mais pas du tout. Le sacrifice propitiatoire instauré par Dieu dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, n'est pas celui d'un taureau ou d'un bouc, mais c'est celui de son propre Fils. Et quand son Fils est venu sur la terre, il a dit très clairement que Dieu ne prenait pas plaisir au sacrifice de taureau ou de bouc. Au lieu de cela, Dieu lui a formé un corps pour que par sa mort, il puisse accomplir l'œuvre de la rédemption éternelle. Le Seigneur a accompli sur la croix le sacrifice qui procure la rédemption éternelle. Nous pouvons à présent obtenir cette rédemption éternelle accomplie par son sacrifice. Et par son offrande, il nous a rendus parfaits à perpétuité. Il est le Fils de Dieu, parce que son œuvre éternelle a été accomplie une fois pour toutes. et nous n'avons plus besoin d'offrir d'autres offrandes pour nos péchés. C'est même impossible, car le Seigneur Jésus a absolument tout accompli. Alors le Fils de Dieu ne peut pas être crucifié une seconde fois pour nos péchés. Alléluia! L'on ne peut pas fouler aux pieds le sang du Fils de Dieu et en faire quelque chose de banal. Ce qui est unique est donc tout ce qu'il y a de plus précieux. Mais dès que quelque chose n'est plus unique, cela devient banal. Traiter le sang du Fils comme s'il était banal équivaut à le ramener au niveau du sang des taureaux et des boucs. Mais si vous respectez son divin sang et le considérez comme unique, il deviendra précieux pour vous. Après que le Seigneur a accompli le sacrifice pour le péché, Dieu a déclaré qu'il ne pouvait être suivi d'aucun autre sacrifice. Le Fils de Dieu ne peut pas mourir une deuxième fois, heureusement. Son œuvre est donc maintenant terminée. Si vous voulez être au bénéfice de cette œuvre, vous devez lui faire confiance. Vous ne pouvez rien y ajouter. Si vous n'acceptez pas de dépendre de lui, vous n'avez rien d'autre. Une fois qu'un homme a été éclairé par la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour ses péchés. Il n'y a qu'une seule offrande pour les péchés. C'est ce que nous prêchons aux autres. Ceux qui acceptent ce sacrifice unique, ils verront leur conscience purifiée. La conscience de leurs péchés aura totalement disparu. Tous leurs péchés ont été effacés. Ils n'ont pas besoin d'une autre purification. La Bible n'enseigne à aucun moment la doctrine d'une deuxième ou troisième ou quatrième purification. Le sang du Seigneur Jésus-Christ ne peut pas nous purifier à nouveau. Une fois que nous avons été purifiés, nous le restons pour toujours. La question qui se pose à présent, c'est la suivante. Que devons-nous faire si, par exemple, par malheur, nous commettons de nouveau un péché? Que devons-nous faire si nous nous souillons à nouveau? On a dit que son sang a lavé tous les péchés commis avant notre conversion. Mais qu'en est-il de ceux que nous commettons une fois que nous sommes sauvés? Nous ne voulons pas être châtiés. Nous ne voulons pas perdre le royaume. Nous ne voulons pas être touchés par la seconde mort. Alors, que pouvons-nous faire devant Dieu? Eh bien, nous devrions lire la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 1. Là, il est dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Le but d'un chrétien est de ne pas pécher. Saint Jean a écrit ces paroles pour que nous ne péchions pas. Notre statut de chrétien fait qu'il est possible pour nous de ne pas pécher. Mais, malheureusement, la réalité nous montre que nous chutons malgré tout. Donc, du point de vue de notre position, nous ne devrions pas pécher. Mais notre expérience nous montre le contraire. Nous n'avons pas besoin de pécher. Pourtant, le péché est une réalité, malheureusement. Saint Jean poursuit. Il dit, et si quelqu'un a péché. Le problème ici est celui d'un chrétien qui vient de commettre un péché. Cet homme est un enfant de Dieu. Il lui appartient. S'il pêche, que doit-il faire? Se suicider tout de suite? Certainement pas. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ le juste. Le texte ne dit pas que nous avons un avocat auprès de Dieu, mais que nous avons un avocat auprès du Père. C'est notre Papa céleste. Ce qui nous permet d'affirmer qu'il concerne les enfants de Dieu que nous sommes. Ce passage parle de ceux qui sont sauvés. C'est toi ma sœur et c'est toi mon frère. Si parmi ceux qui sont sauvés, il se trouve quelqu'un qui a commis un péché, il a donc un avocat auprès du Père. Le problème ne se règle pas au tribunal humain, mais il se règle dans la famille. En grec, avocat se dit parakletos. Para signifie à côté de. Si quelqu'un se trouve à côté de vous, il est au même endroit que vous, me semble-t-il. Par exemple, vous êtes à Shanghai et l'autre est aussi à Shanghai. Si vous allez à Canton, l'autre y va aussi. Nous pouvons prendre l'image des rails d'un chemin de fer. Un rail ne peut pas se diriger vers Berlin, tandis que l'autre prend la direction de Hambourg. Alors, kletos signifie celui qui aide. Un parakletos est donc quelqu'un qui se trouve à côté de vous et qui vous aide. Vous pouvez donc vous enfuir, mais où que vous alliez, le parakletos y sera aussi. Chez les hommes, l'aide arrive parfois, hélas, trop tard. Il peut y avoir de grandes quantités de riz à Shanghai, mais il ne sera d'aucun secours pour ceux qui ont terriblement faim à Pékin, parce qu'il n'est pas à côté. Les Grecs employaient le mot parakletos pour désigner l'avocat de la défense lors d'un procès. Supposons que vous ne comprenez pas la loi et que d'autres vous accusent. Des adversaires vous attaquent en justice ou peut-être profitent de vous. Mais vous êtes incapable de leur répondre. Vous demandez donc à un parakletos de le faire à votre place. Des hommes vous accusent d'avoir péché. Mais votre parakletos prend votre défense. L'image est donc celle de quelqu'un qui se trouve à côté de vous pour parler en votre faveur. Si un chrétien pêche, quelqu'un se tient auprès du Père et prend sa défense. Il prend ta défense. Satan ne cessera jamais d'accuser les chrétiens, c'est son travail, peut-être même ce qu'il aime le mieux. Apocalypse chapitre 12, verset 100, nous dit qu'il accuse les frères même jour et nuit. C'est son boulot préférable. Jour et nuit, nous nous trouvons donc en position d'accuser. C'est pas très drôle. Mais heureusement, nous avons un avocat qui est Jésus-Christ le juste. Et ce passage le présente comme un avocat. Saint Jean ne le montre pas ici comme le miséricordieux, mais comme le juste. Pourquoi ne dit-il pas qu'il est celui qui fait grâce ? Pourquoi ? Mais parce que dans le tribunal céleste, de même que dans les tribunaux humains, il n'est pas question de grâce. Un juge qui veut pardonner aux autres est un juge injuste. Seuls ceux qui recherchent la justice peuvent être jugés. Or Dieu désire la justice. Il n'a pas pardonné nos péchés en contradiction avec la justice. Il n'a pas fermé les yeux sur nos péchés, pas du tout. Il ne les a pas traités à la légère. Bien au contraire, il les a jugés selon la justice. Le Seigneur Jésus-Christ ne prend pas notre défense en disant que la tentation était beaucoup trop forte pour les petits-enfants que nous sommes, et que Dieu doit, par conséquent, nous faire grâce. Le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas, il ne dit pas du tout, que les chrétiens sont trop petits ou que leur connaissance est trop insuffisante et que la chair est beaucoup trop faible et la séduction du monde, malheureusement, trop forte. Il ne dit pas que les ruses de Satan sont trop habiles et qu'il est impossible d'y résister. Non, non, ce n'est pas ainsi que le Seigneur Jésus-Christ nous défend. Il ne plaide pas pour que nous obtenions grâce, pitié, pas plus qu'il ne fait lui-même office de dispensateur de la grâce. Saint Jean affirme que Jésus-Christ est le juste. Le Seigneur dit à Dieu que, à cause de lui et de ce qu'il a fait, Dieu doit nous pardonner. Alors, de quelle manière cet avocat peut-il constituer notre défense ? Eh bien, la réponse se trouve au verset suivant. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 2. Donc, le Seigneur Jésus-Christ construit sa défense sur l'œuvre qu'il a accomplie, c'est-à-dire sur le sacrifice expiatoire de la croix qui nous permet de venir carrément à Dieu. Et ce sacrifice, c'est le plus parfait qu'il puisse y avoir. Il inclut tous les péchés de tous les chrétiens, de tous les temps et de tous les lieux. lorsque le Seigneur présente ce sacrifice à Dieu le Père, celui-ci n'a plus de raison de punir les chrétiens. Le sacrifice expiatoire du Seigneur ne couvre pas seulement les péchés passés, mais, gloire à Dieu, mais aussi les péchés présents et même futurs. Le verbe de ce verset est au présent et non au passé. Dieu ne peut pas nous condamner sur la base des accusations de Satan parce que l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix inclut tous les péchés que nous commettrons jusqu'au jour de son retour. Son œuvre couvre donc tous les péchés sans aucune exception. Dieu doit nous pardonner et il le fait. Il ne peut pas faire autrement parce que ce pardon, il s'appuie sur un véritable fondement. Donc l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus est pour les pécheurs que nous sommes. Son œuvre d'avocat est pour les chrétiens que nous sommes. Et en tant que sauveur, le Seigneur Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la croix. En tant qu'avocat, il applique cette œuvre de la croix. Les péchés des pécheurs sont pardonnés grâce à la rédemption de la croix. Les péchés des chrétiens sont pardonnés grâce au plaidoyer qui s'appuie sur cette rédemption de la croix. Jésus-Christ présente à Dieu le Père l'œuvre de la croix. Dans son plaidoyer, le Seigneur Jésus-Christ place ce qu'il a accompli devant Dieu, son Père, pour que Dieu ne puisse plus punir l'homme pour ses péchés. Nous avons donc un avocat exceptionnel devant Dieu. Sa mort, elle est placée devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu l'avocat de chaque chrétien qui pèche au même titre qu'il est devenu le sauveur de chaque pécheur que nous sommes. Nous ne commençons pas par nous repentir, croire et être régénérés, après quoi le Seigneur Jésus meurt pour nous. Bien au contraire, c'est pendant que nous étions encore pécheurs que le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre sauveur. Romains chapitre 5, verset 8. De même, nous ne commençons pas par nous repentir, après quoi il se fait notre avocat, mais il le devient alors même que nous péchons. Il ne devient pas notre avocat quand nous confessons nos péchés à Dieu, mais il se fait notre avocat alors même que nous sommes en train, malheureusement parfois, de commettre un péché. C'est pourquoi saint Jean écrit que si quelqu'un pèche, nous avons un avocat auprès du Père. Il ne dit pas du tout que nous devons d'abord nous repentir, confesser notre péché et prier pour obtenir le pardon et qu'alors seulement peut-être il devient notre avocat. Mais saint Jean dit que si quelqu'un pèche, nous avons déjà déjà un avocat auprès du Père. À quelque moment que vous péchiez, le Seigneur Jésus-Christ est déjà votre avocat devant Dieu. Et à ce moment précis, il montrera à Dieu le Père son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, et Dieu sera, j'aime pas le mot obligé, mais il le fera par amour pour vous pardonner, par amour pour son Fils adorable, son Fils bien-aimé. Et c'est parce que le Seigneur Jésus est son avocat qu'un chrétien peut confesser son péché et se repentir. C'est parce que notre avocat parle en notre faveur pendant que nous péchons, que nous nous repentons, confessons notre péché et demandons le pardon. L'œuvre d'avocat du Seigneur Jésus ne s'effectue pas seulement au moment où nous nous repentons, mais alors même que nous péchons. Quand nous péchons, le Seigneur Jésus est déjà notre avocat, déjà. Par la suite, nous sommes amenés à la repentance et à la confession. Je répète, c'est parce que le Seigneur Jésus est son avocat qu'un chrétien peut confesser son péché et se repentir. Et c'est parce que notre avocat parle en notre faveur pendant que nous commettons peut-être un péché, que nous nous repentons, que nous confessons notre péché et demandons le pardon. L'œuvre d'avocat du Seigneur Jésus ne s'effectue pas seulement au moment où nous nous repentons, mais alors même que nous péchons. Quand nous péchons, le Seigneur Jésus-Christ est déjà notre avocat. Et par la suite, nous sommes amenés à la repentance et à la confession. Le Seigneur Jésus a accompli toute l'œuvre en un seul jour. Tout est inclus dans cette œuvre-là. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus peut présenter cette œuvre à Dieu. Dieu ne peut plus nous punir, tout simplement parce que toutes les dettes ont été payées. Toutes les dettes qui sont passées et qui sont futures, elles sont donc déjà payées. Le sang de Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Chers amis, avant de terminer par la prière, ce que je vais vous dire, cela n'engage que moi. Personnellement, j'ai remarqué que plus j'aime intensément Dieu, mon divin Père, ainsi que quand je l'aime davantage, ce Père qui nous aime, qui m'aime, et que son Fils, son divin Fils, qui est mon Sauveur maintenant et mon Seigneur, eh bien, croyez-moi, en sachant et en étant conscient de tout cela, aujourd'hui plus que jamais, je fais davantage attention de ne pas faire ou dire n'importe quoi. Je demande au Seigneur de renforcer en moi la volonté, la discipline et le self-control. Oh, ça va pas de soi. J'ai pas dit qu'il n'y a qu'à claquer des doigts et ça va tout seul. Je ne dis pas cela. Et si je me rends compte, que j'ai quand même commis un péché. Croyez-moi, cela m'attriste et me fait très honte, j'ai honte de moi. Et donc, je le dis franchement au Seigneur en reconnaissant que j'ai commis ce péché et je demande humblement pardon. Et si je suis capable de faire cela, je peux, avant la prière du soir, demander pardon à mon épouse. Si, par exemple, j'ai mal agi envers elle durant la journée. Et croyez-moi, ensuite, notre prière ne restera pas morte et sans réponse, mais deviendra une réalité vivante sur tous les domaines. Je voulais vous dire cela parce que j'y crois fermement. Alors, nous pouvons maintenant terminer ensemble par la prière. Seigneur notre Dieu, ta main n'est pas raccourcie pour ne pouvoir plus délivrer. Ton oreille n'est pas devenue pesante pour ne pouvoir plus entendre. Mais ce sont nos iniquités qui ont fait séparation entre nous et toi, ô notre Dieu. Et ce sont nos péchés qui ont fait que tu as caché ta face de nous. Nos lèvres ont proféré le mensonge et notre langue a dit des choses perverses. Il n'y a personne qui crie pour la justice. Il n'y a personne qui juge pour la vérité, on se fie en des choses de néant et l'on dit des choses vaines. On conçoit le travail et l'on enfante le tourment. Nous ne connaissons point le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans nos voies. C'est pourquoi le jugement s'est éloigné de nous. Nous attendions la lumière, et voici les ténèbres, la splendeur, et nous marchons dans l'obscurité. Nous attendions la délivrance, et elle s'est éloignée de nous, car nos iniquités se sont multipliées devant toi, et chacun de nos péchés a témoigné contre nous, car nos rébellions sont avec nous et nous connaissons nos iniquités qui sont de pécher et de mentir contre l'Éternel, de nous détourner de notre Dieu, de concevoir et de méditer dans notre cœur des paroles de mensonge. C'est pourquoi la justice s'est tenue loin, mais le Rédempteur viendra, il viendra vers ceux qui se convertiront de leurs péchés, et l'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, car l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit Saint de l'Éternel lèvera l'étendard contre lui. Les nations marcheront à ta lumière, ô Éternel, et les rois à la splendeur qui se lèvera sur toi. L'Éternel sera pour nous une lumière perpétuelle, et les jours de notre deuil seront finis. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et vous aurez la deuxième partie, Dieu voulant, demain. À bientôt donc. Au revoir mes très chers amis. À demain.